Bienvenue au podcast de l'EOE de l'Association suisse des patients atteints d'éosophagite éosinophile. Je m'appelle Flore Keller. Notre podcast vous offre un aperçu des questions quotidiennes que se posent les personnes concernées par l'EOE. Nous sommes aussi présents avec des podcasts en allemand que vous pouvez retrouver sur les canaux tels que Spotify, Apple et les autres. Pour notre épisode de ce jour, nous avons le plaisir d'interviewer le professeur Andreas Niedeger, médecin-chef de gastro-entérologie pédiatrique au CHUV à Lausanne. Je souhaite la bienvenue au professeur Niedeger pour le podcast d'aujourd'hui. Bonjour Andreas.
Bonjour Flore.
Andreas, tu es médecin-chef de gastro-entérologie pédiatrique au CHUV à Lausanne. Tu accompagnes des jeunes patients et leurs parents dans le cadre de pathologies diverses et possède une précieuse expérience dans l'expertise de l'EOE. Quelle est ton approche avec un nouveau patient enfant qui souffre de l'EOE et comment se manifeste-t-elle chez l'enfant et selon son âge?
L'approche d'un enfant atteint d'œsophagite à éosinophile doit être globale, progressive et centrée sur l'enfant et sa famille. C'est une maladie chronique inflammatoire de l'œsophage, souvent liée à une réaction immuno-allergique. Ce qui nous intéresse sont les antécédents allergiques, alors comme eczéma, asthme, allergie alimentaire de l'enfant, l'histoire alimentaire, alors est-ce que l'enfant est sélectif, évite des textures, et puis surtout l'impact sur la croissance et la qualité de vie. Pour la deuxième question, alors chez les enfants, les symptômes varient en fonction de l'âge. On n'a pas juste un adulte qui va se plaindre d'un blocage alimentaire ou des douleurs lorsqu'il avale. Selon l'enfant, quand il est très jeune, alors si on parle de nourrisson, on peut voir un refus alimentaire, un enfant qui vomit régulièrement, qui prend plus de poids. Chez l'enfant plus grand, il va se plaindre de douleurs abdominales, vomissements, des troubles alimentaires, éviter certaines choses. Et puis le moment où on a l'adolescent en face, il va se comporter comme l'adulte avec une gêne avalée ou des blocages alimentaires. Alors ce qui est important, c'est que beaucoup d'enfants développent inconsciemment des stratégies de compensation lors des repas, de sorte que des symptômes d'alerte classiques comme justement les blocages ne sont pas clairement exprimés. C'est précisément là où réside l'importance d'une vigilance clinique accrue. Des comportements alimentaires inhabituels peuvent constituer un signe précoce d'une telle dysfonction œsophagienne.
Andrea, dis-moi, comment ça passe une approche, de la communication avec un enfant très jeune, parce qu'un enfant communique pas la même chose qu'un adolescent ou un adulte. Comment tu peux comprendre ou communiquer avec cet enfant?
Alors ça dépend de nouveau de l'âge. C'est clair, quand l'enfant est très jeune, on communique avec les parents. Du moment où l'enfant n'a pas trop peur et puis ose répondre et puis peut répondre, on lui pose des questions comme est-ce que ça te gêne quand tu manges? Est-ce que la nourriture reste coincée? Est-ce que tu dois boire beaucoup pour avaler ce que tu viens de manger? Et puis après, ce qui change probablement chez les enfants, c'est on cherche des signes indirects comme est-ce qu'ils mangent lentement, est-ce qu'ils évitent certains aliments. Alors typiquement, c'est la viande, le pain, le riz. Ou on demande aux parents s'ils coupent les aliments en très petits morceaux pour pouvoir avaler.
Tu te rappelles, tu m'avais parlé il y a quelque temps d'une situation où l'enfant, c'était un bébé actuellement de 11 mois. Comment ça s'est présenté pour vraiment comprendre la difficulté ou la problématique de l'EOE?
Alors, le problème avec les petits, c'est les difficultés de la verbalisation. Ils n'arrivent pas à communiquer ce qui ne va pas. Ils ont un vocabulaire limite, alors surtout les petits. Ils n'arrivent pas à décrire les sensations internes du corps. Alors, une gêne, un blocage, ils ne savent pas ce que c'est. Ils font une confusion entre douleur, peur d'avaler et inconfort. Alors, dans l'IOI, les symptômes sont souvent comportementaux plutôt que verbaux. Alors, chez les tout-petits surtout. Ce qui est aussi important, c'est que l'enfant s'adapte sans s'en rendre compte. Alors, la façon comme il mange, pour lui, c'est normal. Alors, il ne réalise pas qu'il y a un problème.
Quels signes doivent alerter les parents? Quelle est la différence entre, pour toi, un EOE réflexe ou un enfant difficile à table?
Alors, ça, c'est pas évident. Un enfant qui est atteint d'une œsophagite éosinophile, les signes sont souvent discrets et peuvent mimer d'autres maladies. Alors, il est important que les parents sachent reconnaître certains signes d'alerte. Mm-hmm. Ce qu'on leur transmet, c'est la façon comment l'enfant mange. Les enfants souvent mangent très lentement, mm-hmm. coupent les aliments en petits morceaux, boivent beaucoup pour faire passer les aliments, restent à table pour mâcher. Et puis, surtout, ils évitent certains aliments, comme j'ai dit, la viande, pain, le riz, ouais. etc., etc. C'est là où souvent on les voit en consultation où les parents nous disent, voilà, il est toujours difficile à table. Est-ce qu'on a un enfant capricieux, comme tu as évoqué? Mm-hmm. Et puis, c'est là où on évalue après les symptômes qui sont décrits. Alors, les symptômes digestifs, souvent, c'est les douleurs abdominales, thoraciques, ouais. les vomissements qui sont associés. Et puis, les vrais blocages, franchement, c'est uniquement chez les plus grands. La question comment on peut faire la différence entre ces trois entités, l'IOI, l'enfant s'adapte pour pouvoir manger. Alors justement, tout ce que j'ai évoqué avant, le reflux, c'est plutôt l'enfant qui se plaint après le repas avec des brûlures et des régurgitations, parfois des vomissements. Et puis c'est aussi symptômes qui font mal la nuit par exemple, alors pas forcément que lié à l'alimentation. Et l'enfant difficile, c'est l'enfant qui choisit de ne pas manger, mais il n'a pas forcément des symptômes ou se plaint de douleur.
Avec ton expérience, comment peut-on aider ces enfants et parents afin d'avoir un diagnostic rapide et précis?
Je pense d'abord reconnaître les signes indirects, alors la façon de manger, mm-hmm. écouter et observer l'enfant, alors pas seulement ce qu'il dit, aussi voir ce qu'il fait. Et puis, nous, on doit impliquer les parents parce que c'est eux qui mangent avec l'enfant à la maison. On peut pas juste penser que c'est ça. Et puis après, ne pas banaliser. Je pense que c'est important. Pas mettre juste l'étiquette enfant difficile ou ça peut être un reflux. Pensez à l'IOI. Et après, pour les non-spécialistes, rapidement oriente vers le spécialiste parce que, comme tu sais, c'est que l'endoscopie qui nous permet de poser le diagnostic.
Ouais. Donc, quand même, prendre au sérieux la problématique alimentaire d'un enfant. Hein.
Tout à fait, oui. Ouais. Moi, j'aurais dit, pensez à l'IOI devant des troubles alimentaires persistants.
Bien, un grand merci à toi, Andreas, pour cette passionnante interview qui a porté sur la recherche de l'IOI en pédiatrie, la communication entre un enfant et le corps médical et les signes alarmants à prendre en compte pour les parents. As-tu d'autres remarques ou conseils à transmettre aux personnes concernées, aux médecins ou aux auditeurs intéressés?
Moi, je pense que c'est juste important de savoir que ça existe, pas banaliser, consulter rapidement le pédiatre et puis un peu pousser le pédiatre pour qu'il envoie chez le spécialiste pour poser ce diagnostic. Parce que, comme tu sais, le plus on attend, le plus la maladie progresse et puis maladie chronique non traitée à long terme, c'est pas quelque chose de très bien.
La recherche continue et nous vous invitons à notre prochain podcast pour en savoir plus à ce sujet et à découvrir d'autres thèmes passionnants. Si ce podcast vous a plu, prenez un instant pour nous laisser un avis. Je tiens à souligner ici la possibilité de soutenir l'Association suisse de l'éosophagite et éosinophile en tant que membre, parraineur ou sponsor. En tant que membre, vous recevrez notre newsletter plusieurs fois par an et aurez la possibilité de poser des questions et de faire part de vos préoccupations au sein de notre réseau. De plus, votre soutien nous permet de continuer à exploiter nos canaux d'information sur lesquels vous trouverez de plus amples informations sur l'IOI. Et surtout, visitez notre site web à l'adresse www.e-centrale.ch sur Facebook et Instagram.